10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Cécile Cornudet, Damien Fleurot, Mickaël Darmon.
Renaud Muselier, bonjour.
Bonjour.
Le 15 avril 2021, c'était cette semaine, le nombre de morts en France dues au Covid-19 a atteint 100 000 personnes. Le gouvernement a préféré ne pas marquer ce cap. La vaccination reste la solution à ce stade pour lutter contre l'épidémie. Mais ce sont aujourd'hui les vaccins qui posent problème. À Nice, hier, AstraZeneca a été boycotté. Il a fallu fermer le centre de vaccination. De votre côté, vous avez précommandé des vaccins russes qui, eux, ne sont toujours pas homologués. Comment sortir de ce confinement à l'air libre, troisième version inventée par le président de la République? Chacun vend son calendrier pour le retour à une vie normale. Juillet pour Thierry Breton, fin d'été pour le gouvernement, 2022 pour le conseil scientifique. Vous nous direz quel est le vôtre, Renaud Muselier. En attendant, les Français ont deux dates certaines, 20 et 27 juin, pour voter aux élections régionales et départementales. La partie n'est pas simple dans le Sud, votre région, mais vous êtes également président des régions de France. Vous êtes face dans le Sud à un ancien enfant de la droite, enfant du pays également, Thierry Mariani, qui a fait comme vous vos classes, ses classes au sein donc du mouvement gaulliste. Et vous devrez aujourd'hui convaincre la droite et les électeurs de la droite que vous restez à droite, alors qu'on dit que vous pouvez aussi soutenir Emmanuel Macron en 2022. Pour clarifier tout cela, je salue Cécile Cornudet des Échos, Damien Fleurot de CNews, qui vous pose la première question, deux questions d'actualité pour commencer.
Oui, bonjour Renaud Muselier. Jean Castex a annoncé hier un fonds de solidarité exceptionnel d'1 milliard d'euros pour les agriculteurs qui ont subi les conséquences dramatiques parfois du gel sur les cultures, sur les exploitations. Le gouvernement a-t-il bien réagi et peut-être aussi quel est l'état de la situation dans votre région?
C'est la vallée du Rhône qui est directement impactée. Quand on écoute Madame Lambert et qu'on voit les agriculteurs, je travaille avec les chambres d'agriculture, je serai mardi dans le Bouches-du-Rhône, dans le Vaucluse, ils parlent de zéro récolte quand même. C'est-à-dire plus de cerises, plus d'abricots, plus de raisins.
Oui, des pertes sèches dès cette année.
C'est un manque à gagner de combien estimé?
C'est pas très bien encore. D'après au niveau national, ça serait autour de 2 à 3 milliards
non, mais
quand
chez
même.
Vous. Hein.
Chez nous, on va avoir vraisemblablement, comme on est un quart des régions touchées, si on part sur la base de 4 milliards, il y en a pour 1 milliard. Donc les moyens mis en place par l'État sont conséquents, quand même la réaction est immédiate. Pour ma part, j'ai déjà débloqué 3 millions d'euros. Je verrai sur le terrain comment cet argent viendra en soutien du PGE nouveau, de l'aide de l'État. C'est à disposition des préfets, donc on va voir avec le préfet comment on traite ça. Et comme j'ai une assemblée plénière vendredi, on modifiera les aides financières et structurelles pour les moyens financiers. Parce qu'en fait, il y a en plus toute la filière derrière. C'est-à-dire que, par exemple, toutes les compotes, c'est terminé. Tout ce qui arrive derrière sur la filière de chacun des fruits, il n'y a plus rien derrière.
Donc pour vous, c'est une catastrophe économique qui est en train de se mettre en place. Le gouvernement réagit bien?
Là, il a réagi très vite, avec des moyens conséquents et avec des outils qui ont été opérationnels, qui sont à peu près les mêmes que dans le cadre de la crise du Covid et dans le cadre de les crises agricoles précédentes. Donc, il y a une capacité de réaction incontestable. Alors, bien entendu, on va dire qu'il n'y a pas assez, il y aura un débat permanent là-dessus, mais en tout cas, la réaction est immédiate et quand même conséquente.
Cécile Cornudet.
Il y a une autre question d'actualité, le verdict du procès en appel de Véry Châtillon. Vous savez, ce procès sur l'agression de deux policiers en 2016, il a été rendu hier soir. 5 condamnations, mais 8 acquittements. Ça vous inspire quoi? Est-ce que c'est trop laxiste comme des...
Et une bagarre générale. Donc on est là quand même un truc de fou.
La salle d'audience.
Dans la salle d'audience, donc c'est quand même... Et entre eux. C'est-à-dire que ceux qui ont été condamnés sont battus avec ceux qui ont été... Acquittés. L'air de dire, moi j'ai pris pour toi. C'est ça que ça veut dire chez eux, ça.
Sur la justice, ça vous inspire quoi?
Pour la police, ça m'inspire surtout une grande désespoir. Grande tristesse, parce que les actes, c'est des tentatives de meurtre, en fait, ou d'assassinat, dans cette histoire, avec des liaisons irréparables. Et c'est, à mon avis, pas du tout la bonne réponse de la justice vis-à-vis de cette violence permanente contre les autorités. Et la première des autorités, le premier des remparts, c'est la police. Et donc, j'estime que la justice, là, n'est pas à la hauteur.
Vous demandez le retour des peines planchers, par exemple, pour ce type d'agression?
C'est pas tellement le retour des peines planchers, c'est là, il y en a la moitié qui sont punis, l'autre moitié qui sont pas condamnés. Et donc, je sais pas comment a été menée l'enquête, mais l'image générale pour la police qui est là pour sécuriser nos concitoyens, pour qu'on puisse vivre respectueux des règles de la République, montre bien qu'il y a quand même des peines qui ne sont pas exemplaires, et ces peines n'étant pas exemplaires, laissent la place après à une dérive de la voyoucratie. Voilà.
Renaud Muselier, on le disait en début d'émission, cette semaine, on a atteint donc 100 000 morts dus au Covid. Est-ce que la réaction de l'exécutif, du gouvernement, du président de la République vous ont semblé à la hauteur de ce cap ?
100 000 morts, c'est quand même énormissime, quoi. C'est-à-dire que la guerre d'Algérie, 8 ans, c'est 50 000 morts. Alors vous allez me dire, c'est pas la même tranche d'âge, mais enfin, quand même, c'est quand même énormissime. 400 000 morts dans la Deuxième Guerre mondiale. T'as 100 000 là, donc il y a quand même derrière ces chiffres dramatiques des familles, des désespoirs, des tristesses, enfin toute l'horreur.
Est-ce qu'il faut un hommage ou est-ce qu'il aurait fallu un hommage ou marquer différemment ? Comment faut-il marquer pour vous ?
Je pense que de toute façon, il y aura un moment ou un autre un mémorial obligatoire. Alors, est-ce que ça va passer par une date, une période, un monument Moi, je pense que les symboles sont d'importance, donc il faut marquer les choses pour se souvenir des choses.
On a entendu Angela Merkel qui participe à une messe aujourd'hui parce qu'il y a 80 000 morts en Allemagne.
Qu'il y en ait 80 000 ou 100 000, je veux dire, c'est des caps qui sont absolument incroyables, quoi. De toute façon, il y a des millions de morts dans le monde. Bon. Plus ou moins en fonction des États qui ont fait des opérations, je crois pas au Covid, où j'essaie de me battre contre le Covid. Donc 100 000, c'est quand même un cap important. Je pense surtout c'est que c'est la suite qui compte, c'est devant qu'il faut regarder, au-delà du mémorial. Et moi, je me souviens, j'étais ministre de Monsieur Chirac, du président Chirac. Il avait fait le plan cancer. Et en fait, il faut plus que ça se renouvelle. Alors c'est facile de le dire, mais pour une fois qu'on l'a dit, il faut s'organiser. Et donc, si on a eu des morts là-dessus, dans ce domaine particulier qui est les virus, il faut faire un plan antivirus, que ça soit contre les maladies infectieuses, de façon à ce qu'on dote notre pays d'outils de dépistage, de traitement, d'anticipation que nous n'avons pas aujourd'hui et que nous n'avons pas eu pendant toute la crise, avec des erreurs stratégiques majeures. Donc on se retrouve dans une situation où, un, on pense aux 100 000 morts et leurs familles. Deux, il faut penser quand même à ces 5 millions de personnes qui ont été contaminées, qui ont été soignées et qui sont sorties. Mais dans ces 5 millions de personnes, vous avez tous ceux qui sont handicapés par le Covid long. Attention, parce que ceux-là, ils sont vivants, mais très handicapés quand même, et très, très, très atteints. Et puis après, comment faire pour que ça ne se renouvelle pas ? C'est pas simplement un vœu incantatoire. Il faut faire un plan antivirus qui nous permette de se doter au niveau du pays de moyens d'anticipation pour que ça ne recommence pas.
Regardez l'avenir. Donc en fait, quand on a vu cette semaine le président de la République, lui, tenir une réunion pour parler de la sortie de crise, aller sur le chantier Notre-Dame pour parler de l'espoir d'une reconstruction et de la résilience générale qui pouvait être tirée comme leçon, il a eu raison de poser ce mode de fonctionnement.
Il a parfaitement raison, et c'est ce que l'on aurait dû faire depuis le début de la crise, parce que depuis le début de la crise, c'est un problème sanitaire. Dans ce problème sanitaire, on a oublié de faire de la médecine, on n'a jamais parlé de médecine dans cette histoire, et quand vous allez voir votre médecin, il vous soigne, il vous donne une perspective, et il vous donne un avenir. Alors, il est plus ou moins difficile en fonction de votre pathologie, c'est pas pareil si vous avez un cancer ou vous avez une grippe, mais pour autant, vous allez pouvoir... Et on attend, dans une crise sanitaire, de votre interlocuteur qui vous donne une perspective. Alors la perspective, elle peut se dégager, elle peut se développer. Mais si vous n'avez pas d'espoir, si vous n'avez pas de perspective, vous n'avez aucun avenir et vous rentrez dans une dépression chronique majeure. Et donc, oui, toujours la perspective, oui, toujours devant, oui, toujours à l'action pour essayer de vivre, continuer à vivre.
Daniel Fleurot.
Oui, Renaud Muselier, vous avez fait une annonce pour vouloir commander des vaccins Spoutnik, des vaccins russes. Cette semaine, Thierry Breton, le commissaire européen, était l'invité d'Europe 1. Il a un message à vous adresser. Je vous propose qu'on l'écoute et vous réagissez ensuite.
Il vous répond.
C'est bizarre parce que j'ai entendu qu'il le faisait auprès de l'ambassadeur de Russie. Donc l'ambassadeur, c'est plutôt fait pour faire de la diplomatie. Donc c'est peut-être la diplomatie vaccinale. Rien qu'avec l'augmentation de livraison des 50 millions qu'il ne connaissait pas, de vaccin Pfizer au deuxième trimestre, la France va en obtenir 7 millions de plus. Et rien que pour la région PACA, ce sera 534 000 doses de plus et qui ne seront donc pas à la charge de ses concitoyens.
Alors à quoi ça va vous servir les vaccins russes ?
Il manie l'ironie pour essayer de montrer que je ne connais pas les règles européennes.
Que vous faites de la communication en fait.
Oui, non, il manie l'ironie pour dire que je ne connais pas les règles européennes ni les règles sanitaires. Donc, je suis médecin et je suis sur le terrain. Alors je vais bien expliquer à M. Breton
que je crois qu'ils ont pris beaucoup de retard sur les commandes anticipées des vaccins, que dans ces retards de vaccins Moderna, Pfizer ou AstraZeneca, on se rend compte qu'on n'a pas été livré, qu'on n'est toujours pas livré. Et pour vous donner un exemple très simple, c'est pour la ville de Marseille ou pour la ville de Nice, la ville de Marseille qui fait grosso modo 2500 vaccins par jour, à partir du mois d'avril, le mois de mai, on ne prend plus qu'en faire 500 par jour, parce qu'il n'y a pas les livraisons. Et ce sera simplement les deuxièmes doses et pas les premières
vous
doses.
Vous pensez que les vaccins russes vont venir compenser? Ils ne sont pas homologués, ils sont en cours d'enquête.
À la Commission européenne qui a été défaillante. Et je réponds à M. Breton qui dit simplement une chose, c'est que ce qu'il a commandé doit arriver mais n'arrive pas, et que nous, sur le terrain, nous avons ouvert nos vaccinodromes et on n'a rien pour vacciner. Donc il est gentil, mais il va essayer de s'occuper de la construction de ces vaccins. Parallèlement à ça, pour en ce qui concerne le Spoutnik, j'ai été secrétaire d'État aux affaires étrangères, elle n'a pas été, je sais très bien comment ça fonctionne. Quand vous faites une commande, je suis tout à fait dans les règles de l'Europe et de la France, et j'ai le droit de le faire. Donc, à qui je peux m'adresser ?
Oui, mais vous n'avez pas le droit d'injecter. Non, mais attendez.
Donc, c'est pas que j'ai pas le droit d'injecter. Je fais une précommande, comme l'Europe a fait une précommande pour Pfizer en juillet ou en août.
Et combien ça vous coûte d'ailleurs ?
Et donc, je fais une précommande de Spoutnik auprès de l'ambassadeur de Moscou, enfin des États-Unis, qui a transmis la demande à Moscou. Cette demande a été validée par le ministre de la Santé de Moscou, qui m'a adressé à la Fondation, et je suis en contact avec la Fondation pour précommander, comme un certain nombre d'autres pays d'Europe ou du monde.
Avec quelle efficacité ?
Et à ce moment-là, ce vaccin, quand il va passer dans les normes européennes d'autorisation administrative, donc passer par l'Agence européenne du médicament, une fois que c'est validé, et bien à ce moment-là, je serai dans les premiers à avoir commandé pour être un des premiers à être
et le
livré.
Et le coût pour la région ?
Eh bien, c'est entre 5 et 10 euros ou 12 euros, ça dépendra de la quantité du moment. Voilà. Mais aujourd'hui, j'ai programmé les moyens financiers pour les acheter. Nous ne les injecterons que dans le cadre de l'organisation de la santé publique française avec l'ARS, et nous le ferons auprès de nos populations, de façon à ce qu'on puisse le faire le plus vite possible, si on a l'autorisation sanitaire. Je me permettrai de rappeler
à M. Breton... Vous avez un calendrier sur cette autorisation ?
Sur l'autorisation, non. C'est l'autorisation. Après,
il y aura une enquête encore supplémentaire qui va être faite sur le Spoutnik d'ici là.
Après, il y a un autre débat.
Après,
il y a un autre débat sur le Spoutnik. Il est, d'après la revue scientifique Lancet, il est fiable à 93%. Donc, c'est plutôt un très bon vaccin. Maintenant, est-ce que l'Agence européenne du médicament estime que parce que c'est un vaccin russe, on ne peut pas valider son autorité administrative et médicale, ou il lui donne l'autorisation? Enfin, ça fait quand même déjà un moment qu'on attend des résultats qu'on n'a pas.
On se retrouve dans quelques instants avec Renaud Muselier.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Cécile Cornudet, Damien Fleurot, Mickaël Darmon.
Et l'on retrouve Renaud Muselier, président LR de la région Sud, PACA, président des régions de France. On continue à parler de cette campagne de vaccination qui est bien lancée, mais ce sont des vaccins qui posent problème. Cécile Cornudet.
Oui, Renaud Muselier, avant de voir si le Spoutnik 5 inspirera confiance aux Français, là, il y a un vrai problème sur l'AstraZeneca. Christian Estrosi à Nice a dû fermer un vaccinodrome parce qu'il ne trouvait pas preneur pour venir se faire vacciner avec ce vaccin. Comment on fait ?
On a mis en danger la vaccination. Déjà, les Français n'étaient pas très chauds pour se vacciner au départ. C'est à peu près 30%.
On a mis en danger.
Globalement. C'est autour de la peur. Autour de la peur. Est-ce que vous réalisez quand même qu'avec l'AstraZeneca, vous avez 1000 fois moins de risques que par rapport à la pilule contraceptive pour les femmes de thrombose ? C'est-à-dire que vous prenez des risques quand vous prenez votre pilule contraceptive, vous ne les prenez pas quand vous avez l'AstraZeneca.
Vous, le médecin Renaud Muselier, vous dites qu'il faut faire confiance à ce vaccin AstraZeneca.
Mais bien sûr, vous avez beaucoup moins de chances de mourir du Covid en prenant l'AstraZeneca qu'en ne le prenant pas. Donc le rapport risque fait en sorte que risque et bénéfice... Et
pourquoi vous ne vous vaccinez pas, vous, avec l'AstraZeneca, devant les caméras ?
Parce que j'étais vacciné Pfizer en tant que médecin de plus de 50 ans. Donc je ne vais pas me vacciner deux fois, quand même.
Mais vous dites il faudrait confiance ?
Mais il faudrait revenir à un message d'espoir et un peu apaisé. On fait peur à tout le monde, on joue sur les peurs tout le temps sur les peurs. Et donc là aujourd'hui,
vous ciblez le ministre de la Santé et son discours, Olivier Véran.
J'ai tellement tapé dessus pendant cette année que je vais peut-être arrêter de leur taper dessus parce que ça devient ridicule. Donc je pense qu'ils ont commis un grand nombre de fautes, d'erreurs, et ils démultiplient les peurs. Mais plus, j'en veux plus au Conseil scientifique qu'au ministère de la Santé.
Pourquoi, pourquoi au Conseil scientifique ?
Parce qu'ils nous ont expliqué tout et son contraire pendant toute la période de l'année dernière, et ils n'ont jamais évolué leur doctrine. Et je leur reproche maintenant, leur doctrine, j'ai un exemple très simple, hein, ils nous ont expliqué quand même qu'il ne fallait pas les masques, qu'il ne fallait pas tester, et puis après ils nous ont expliqué qu'il fallait masques partout, voire les FFP2, et après qu'il fallait tester tout le temps. C'est quand même, excusez-moi du peu, mais enfin, c'est quand même des fautes stratégiques majeures, et ils ne se sont jamais excusés de ces erreurs-là. Et on leur en veut jamais, et c'est toujours à eux qu'on redemande ce qu'on doit faire. Et quand on a, et je vois les difficultés pour le gouvernement aujourd'hui, dans ces périodes de très grandes difficultés, parce que c'est mondial, on voit chacun sa stratégie un peu différente, tout le monde tâtonne, là où j'en veux beaucoup, c'est la crainte du pénal permanente, quoi. C'est-à-dire que vous avez, avant chacun des conseils de défense, que ça soit le directeur de la santé, que ça soit le conseil scientifique, qui vous explique de toute façon, si vous faites pas ça, il y aura tant de milliers de morts, vous en assumez la responsabilité, et moi, pour pas aller au pénal, je garde la lettre dans ma poche, comme ça, au moins, je serai pas condamné. C'est pas comme ça qu'on aide et qu'on conseil, Renaud, c'est comme ça qu'on met la pression sur des dirigeants qui doivent avoir une lucidité dans la décision et donner des perspectives.
Renaud Muselier, vous parlez du conseil scientifique. Il y a quelques jours, donc, le président du conseil scientifique, hein, Jean-François Delfraissy, a dit que nous sortirions de cette crise en 2022. Il a raison ?
Bah, c'est bien lui qui nous a expliqué qu'il n'y avait pas besoin des masques. Non, c'est pas lui ?
Donc,
c'est pas lui qui nous a expliqué que c'était parfait. C'est pas lui qui nous a expliqué que c'était remarquable le fait que la campagne de dépistage était bien faite et qu'il fallait attendre une semaine pour avoir rendez-vous et une semaine pour avoir le résultat. C'est-à-dire qu'à Paris, vous aviez 14 jours pour savoir si c'était positif ou non. Comme ça, vous avez contaminé tous vos voisins. C'est pas eux qui nous ont expliqué toute la journée. Écoutez. Prenez de l'aspirine et restez chez vous. Et quand vous n'arrivez plus à respirer, vous n'en sortirez pas.
Ah, je vous écoute et je vous dis, professeur Raoult, sort de ce corps. C'est l'impression que vous êtes en train de reprendre les approches de votre ami professeur Raoult,
oui,
qui lui avait dit il n'y aura pas de deuxième vague et que c'est terminé.
Oui, mais enfin, c'est terminé en Chine. Hein. Chez nous, c'est pas terminé.
On parle de la France.
Oui, mais c'est terminé en Chine. Il faudrait bien savoir pourquoi c'est terminé en Chine. Alors, vous allez me dire qu'ils ont peut-être des méthodes d'isolement plus fortes que les nôtres. Enfin, nous, on a une méthode de passoire. C'est bien chez nous qu'on a expliqué quand même qu'il fallait tester, tracer, isoler. Ben, vous testez, on a testé beaucoup plus tard. Tracer, on ne trace plus. Et isoler, on n'isole pas.
Justement.
Et parallèlement à ça, on a oublié quand même un mot essentiel. Et c'est plutôt ça qu'il faut que vous me disiez. À quel moment on soigne ? À quel moment on va vous expliquer que vous pouvez avoir améliorer votre immunité en prenant de la vitamine C, de la vitamine D et du zinc ? Jamais. À quel moment on va vous expliquer que le mixte zithromycine, et j'enlève
l'hydroxychloroquine,
la corticothérapie, les anticoagulants, l'oxymètre pour vérifier si vous êtes à 96 ou 97% de saturation, que vous pouvez faire tous les jours au quotidien, fait en sorte que immédiatement vous pouvez vous soigner. Ce qu'on ne fait pas, ce qu'on ne dit pas, ce qu'on ne rappelle pas. Donc on vous dit simplement, si vous êtes positif, qu'est-ce qu'on vous dit de faire aujourd'hui ? Est-ce que vous savez ce que vous fassiez vous aujourd'hui ? Vous qui êtes des observateurs de la vie publique, et qui parlait de ça toute la journée. Et vous le faites ? Même pas sûr. Mais vous soignez pas ? Vous soignez pas ? Ou est-ce que vous avez une seule maladie au monde ? Une seule maladie au monde où les médecins ne soignent pas ? On a oublié la médecine. Alors ça, si vous me dites sort de ce corps, docteur Muselier, eh ben oui, je vous explique ce que j'en pense.
Professeur Raoult, en l'occurrence, le ministre de la Santé, Olivier Véran, hein, que vous évoquez régulièrement, eh ben il était en déplacement vendredi à Manosque. Il a parlé, lui, des perspectives de sortie de la crise sanitaire en écoutant Regarde.
Je vous parle de la mi-mai, dans un mois, en quatre semaines, il peut se passer, et il se passera, je le souhaite, et nous le souhaitons tous, et nous agissons tous pour ça, et les Français en premier chef, en faisant attention à eux, nous agissons pour que dans un mois, les conditions sanitaires nous permettent de reprendre une vie davantage normale, progressivement.
Alors la grande inquiétude en ce moment, c'est sur le variant brésilien. Le gouvernement, dont vous parliez de passoire, vient de prendre des décisions pour imposer la quarantaine aux passagers venant du Brésil, d'Afrique du Sud, de Chili et d'Argentine. Est-ce que c'est assez ? Est-ce qu'il faut faire quelque chose pour la Guyane française notamment ? Comment vous voyez ce sujet ?
Il faut avoir une doctrine sanitaire d'accueil à nos frontières beaucoup plus forte que ce que l'on a eu jusqu'à présent, et toutes les mesures qui sont les plus importantes. Il faut faire une liste rouge des pays dangereux.
Mais là, vous avez l'Inde aujourd'hui.
Oui, mais enfin, là, ce qui se passe, c'est que quand ils arrivent, on fait quoi ? On teste, et une fois qu'ils sont positifs, il faut une quarantaine stricte. Or, aujourd'hui, vous n'avez rien de strict.
On vous dit, mettez-vous en quarantaine. Mais bien sûr. Les voyageurs dans des hôtels, qui
vous
les payent
prenez. Ça, c'est encore un autre débat. C'est eux qui les payent. puisque c'est eux qui viennent de l'extérieur.
Pour des raisons professionnelles.
Quand vous allez en Australie, quand vous allez en Nouvelle-Zélande, quand vous allez en Corée du Sud, et vous ne posez pas la question de savoir si c'est l'État qui vous paye ou non. Vous y allez, vous êtes positif, vous savez que vous avez une quarantaine de 14 jours, on vous met dans un hôtel d'office et c'est vous qui payez l'hôtel. C'est pas l'État qui vous reçoit dans lequel vous allez, alors vous venez d'un pays à risque qui va payer pour vous quand même. Enfin, donc vous allez dans ce pays, vous savez que quand vous allez dans ce pays, vous vous prenez 14 jours ferme dans un hôtel, sous conditions strictes, obligatoires.
Pourquoi on ne fait pas ça?
Ben, c'est pas moi qui vous pose la question. Moi, je vous propose de le faire. C'est pas la même chose.
Comment et vous donc, l'analysez, c'est
ben,
ça
ben, je l'analyse, c'est que on n'ose peut-être pas en disant c'est une atteinte aux libertés. Non, mais c'est pas une atteinte aux libertés. Nous faisons des efforts, nous, tous au quotidien, qui sont phénoménaux, et des pays qui ont choisi notre doctrine sanitaire vont nous recontaminer, et c'est par faiblesse qu'on se fait recontaminer. Et donc, par cette faiblesse-là, il faut dire très clairement, vous voulez venir dans notre pays? Pas de problème, vous êtes les bienvenus. Mais vous savez que vous allez vous prendre 14 jours à l'hôtel, et que vous allez vous faire dépister avec test PCR tous les 3 jours.
Damien Fleurot sur les réouvertures.
Oui, alors il y a ce plan de réouverture prévu mi-mai par le gouvernement. C'est ce bout du tunnel que l'on commence à apercevoir, dit-on, au sommet de l'État. Est-ce que c'est réaliste?
Je pense que c'est réaliste, mais un peu court. Vous savez, moi je suis, je le dis souvent, je suis médecin, mais donc je regarde ce qui se passe. Et je compare pas l'autre pays du monde avec nous ici, chez nous. Je compare ce que l'on fait chez nous, parce que c'est à peu près les mêmes choses, les mêmes pathologies, les mêmes variants, les mêmes populations, les mêmes cultures. Bon. Nous, dans les Alpes-Maritimes, nous avons été les premiers impactés dans le sens des mesures draconiennes. Premier couvre-feu de 23h à 20h, premier couvre-feu de 20h à 18h, première fermeture de week-end.
Mais là, au mois de mai, est-ce que vous allez pouvoir ouvrir ?
Et nous étions à 700 taux d'incidence. Il faut reprendre toujours ce point du thermomètre. Vous ne soignez pas de la même manière dans votre thermomètre, c'est le 36,5 ou 40 ou 38. Bon. Donc, dans les Alpes-Maritimes, dans le cadre des taux d'incidence, taux de positivité et patients en réanimation, on a vu qu'au bout de 6 semaines, ça a baissé considérablement. On était passé de 700 taux d'incidence, pour prendre la barre de 150. 700, on était passé à 400. Et aujourd'hui, après 8 semaines, on est à 250. Ce qui veut dire que si on a ça à peu près, on va avoir une vraie chute de taux d'incidence avec les patients en réanimation qui vont derrière
donc
en cascade.
Donc vous allez rouvrir.
Et donc je pense qu'au bout de 8 semaines, ça va être à peu près la même chose partout en France. Comme nous, dans les Alpes-Maritimes, on est parti très haut à 700 et que le reste de la France est à peu près à 400, on va rester sur des plateaux très hauts.
Ce sera bon pour vous, dans votre région,
je pense
les terrasses, oui.
Ah oui, mais moi, de toute façon, je m'organise.
Qu'est-ce qui va reprendre comme vie
Moi, je m'organise. C'est-à-dire, après, je fais des propositions en permanence au gouvernement.
Allez-y.
Donc nous, c'est, par exemple, c'est tous mes festivals de plein air. Corrigé d'Orange,
Avignon,
en plein air. Aix, Ramatuel, tous les festivals de plein air. Après, j'essaie d'organiser la réouverture, mais après on va voir par rapport à la saison, des stades. J'ai fait les protocoles, OGC Nice, RCT, l'Olympique de Marseille, les
et dans un
espaces.
Stade, vous deviez faire un concert test.
Un concert test, on a organisé le dépistage, l'organisation. J'ai acheté des autotests salivaires. J'en ai pour 150 000 autotests salivaires pour réparer ça.
Il y a une
ça.
Date, du coup?
Ben non, on n'a pas. Mais on n'a jamais l'autorisation. Le problème, c'est qu'on n'a jamais la réponse. On devait le faire depuis 2 mois. Et c'est ça où je râle, quoi. Et vous ne pouvez pas empêcher mon caractère tempérament naturel de m'exprimer.
Allez-y, exprimez-vous.
La réalité, c'est qu'on doit se servir de la crise pour faire des expérimentations. Ces expérimentations, on ne les fait pas dans les moments les plus difficiles. Et donc, on va essayer d'ouvrir. Pourquoi on n'ouvre pas nos musées avec une jauge? Voilà. Et donc, ces expérimentations-là, on les propose en permanence. Cinéma, musée, extérieur, intérieur, stade, différents stades. On l'a fait pour les stations de ski. Les stations de ski, on nous a expliqué qu'il fallait fermer à Noël pour être sûr d'ouvrir en février. Du coup, on a double peine. Bon. Et tout ça fait en sorte qu'on ne veut pas nous écouter. On veut pas nous entendre. On veut jamais nous tendre la main. Et c'est pénible.
On en reparle justement après la pause pour un autre type de festival.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Cécile Cornudet, Damien Fleurot, Mickaël Darmon.
Et Renaud Muselier, président LR de la région Sud-PACA. Vous disiez à l'instant, on ne nous écoute pas, mais vous allez écouter l'hommage appuyé de Jean Castex à l'action de Christian Estrosi dans sa lutte contre la crise sanitaire. C'était cette semaine en écoute, on regarde.
Les Alpes-Maritimes ont pris, derrière leurs élus, derrière Christian Estrosi, les choses en main, avec des résultats, que ce soit du point de vue de l'épidémiologie, ou de la vaccination.
Alors, ça montre bien que finalement, les élus sont écoutés. Vous êtes LR, vous dites c'est ma colonne vertébrale, je suis LR. Mais est-ce que la colonne vertébrale, parfois, elle n'a pas un peu de scoliose dans le sud?
Est-ce qu'on non, pas du tout.
Vous ne souhaitez pas, tout ça ne raconte pas un accord qui est en train de se faire avec les macronistes.
Donc, je veux revenir sur les propos du Premier ministre, après je parlerai politique. Sur le propos du Premier ministre, le fait que M. le Premier ministre rende hommage au travail de Christian Estrosi a raison. Hein. Il a anticipé tous les ballons, mais il n'a jamais été écouté par le central, par le ministère de la Santé. Lui, il s'est soigné à l'azithromycine, on ne l'aura peut-être pas à l'hydroxychloroquine aussi, hein. Les tests là-dedans, on l'a fait ensemble, on a tout fait ensemble, de toute façon, avec Christian. Mais quand on a fait nos tests rapides, l'achat des machines pour les tests rapides qu'on a fournis dans les hôpitaux, les vaccinodromes, les vaccinobus pour faciliter la tâche, on l'a fait sans le ministère de la Santé. Les 13 millions de masques qu'on a achetés pendant qu'il n'y en avait pas, le matériel qu'on a fourni sur la première ligne, les moyens financiers qu'on a donnés sur la deuxième ligne, on l'a pas fait avec l'accord du gouvernement, sauf sur le moyen financier avec le ministère de Monsieur le maire. Bon, je suis d'autant plus heureux de voir ça que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a gagné le prix des 6 meilleures régions d'Europe dans la gestion de la crise sanitaire l'an passé. Je suis le premier des six régions d'Europe qui ont été les mieux gérées sur la phase de la crise sanitaire. Ce qui veut dire qu'on a une reconnaissance extérieure sur notre agilité, notre rapidité, notre volonté de bien faire, notre efficacité,
c'est
parce qu'il y a tellement des
palmarès.
Pardon?
Qui a fait
l'Europe.
Ce palmarès?
C'est la Commission européenne avec.
Bon, vous voyez comme quoi finalement l'Europe n'est pas si mauvaise avec vous.
Non, mais moi je suis pro-européen, donc vous savez, donc j'ai aucun problème. Mais qu'on me dise pas que je ne vais pas me servir de l'Europe. Hein. Donc le fait que nous ayons été très actifs avec Christian, mais avec d'autres élus de la région, tant mieux. Tant mieux, c'est ce qu'on essaye de faire.
J'écoute.
Après,
l'autre
volet, si vous me parlez de ma colonne vertébrale, j'ai pas de scoliose, moi. Hein. Moi, je suis un sportif, j'ai fait du sport de haut niveau. Dans mon sport de haut niveau, je connais les règles du jeu, de tous les jeux dans lesquels j'ai pratiqué, et j'ai pas de scoliose. Je suis un gaulliste de formation, j'ai une gestion de crise à traiter, et je la fais bras ouverts, cette gestion de crise. Et je la fais avec tous ceux à qui je peux le faire. Quand je travaille, Monsieur Blanquer, pour faire en sorte qu'aucun de mes lycées de la région ne soit fermé, est-ce qu'on va me reprocher d'être en contact avec le gouvernement? Quand je signe avec le Premier ministre un contrat d'avenir de 5 milliards d'euros, de plus de 5 milliards d'euros, on va me dire que je suis macroniste, moi? Que je suis en marche, plutôt? On va me dire quoi? Moi, je dis, depuis le départ, parce que vous voulez qu'on fasse de la politique, qu'il n'y aura pas d'accord d'appareil. Il n'y aura pas d'accord d'appareil.
Oui, mais aujourd'hui, en février, vous disiez, il peut y avoir des en marche sur ma liste. Il y avait Christophe Castaner qui proposait un accord.
Dès le premier tour.
Dès le premier tour, ça, c'était en février. Et là, on est en avril et ça a beaucoup changé.
Non, ça a changé en quoi? Il n'y a pas d'accord d'appareil?
Ça oui, alors quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on avait l'impression qu'on allait vers ça, et vous avez maintenant réancré LR.
Je comprends très bien que vous puissiez en avoir l'impression, mais je me permets de vous rappeler toujours ce que je rappelle, ce que je dis. Je répète toujours la même chose. Alors on peut me croire, pas me croire, ok.
Allez-y.
Sauf que j'ai dit toujours la même chose, il n'y aura pas d'accord d'appareil. J'ai eu le soutien de ma famille politique, je n'ai pas demandé l'investiture. Je pilote une majorité à la région, après qu'on ait gagné, à la suite du départ de M. Castaner, qui nous a permis à Christian et à moi de gagner la région, où j'ai 8 composantes politiques de gens qui sont très différents. Je veux additionner les compétences. Je veux travailler avec les meilleurs. Je veux organiser la suite.
Ah, mais ça, c'est une déclaration de candidature, ça. Vous parlez comme un candidat
mais parce
pour
que vous
tirer la liste.
Que, oui, mais non, je ne suis pas encore candidat, et je le saurai en temps opportun, parce que ça n'intéresse personne.
C'est quand ce temps opportun, René Muselier?
Si on parle de la réouverture, on va en parler quand il y aura la réouverture. Pour l'instant, on est concentré sur l'organisation.
Vous ferez votre déclaration de candidature.
On est concentré aujourd'hui sur la réouverture de notre région.
Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'urgence à mener cette campagne officiellement et à dire aux habitants de votre région que vous êtes candidat quand vous voyez les sondages?
Mais
parce que, par exemple,
la présence de Thierry Mariani,
candidat du Rassemblement national, donné dans un sondage à 31% des voix, devant vous, vous n'êtes que deuxième, entre guillemets.
Vous savez qu'il y a deux tours dans la vie. Ça ne vous a pas échappé. Et vous remarquerez que quand même dans tous les 5 sondages qui sont sortis dans la région depuis cet été, je suis toujours gagnant, en triangulaire ou en calangulaire, face aux formations.
Mais vous êtes donné derrière la liste emmenée par Thierry Mariani du Rassemblement National. Est-ce qu'il n'y a pas urgence à faire campagne officiellement?
Vous n'allez pas me recommencer l'histoire. Attention, ayons peur du Front National. Je me permets de vous rappeler que dans les dernières municipales, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, nous devions perdre 17 villes face au front. 17 villes. Bon. On n'en a perdu aucune, on a pris le Luc. Et eux, ils n'ont rien gagné. Terminé, au revoir et merci. Et donc, cette frayeur permanente qui dit, voilà, ok. Deuxième volet, vous me dites le Front National est haut. Ben, il est haut classiquement. J'ai toujours gagné en triangulaire toutes mes législatives. Comme Thierry, qui validait le RPR à l'époque.
Thierry Mariani, contre, candidat
contre
RN.
Contre le Front National, qui maintenant devient le meilleur allié du Front National, alors qu'il a combattu le Front National toute sa vie. Oui. Allez chercher l'histoire. Donc, la réalité, c'est que Thierry Mariani, aujourd'hui, fait entre 29 et 31% des voix au premier tour, quel que soit le sondage, alors que Marion Maréchal Le Pen, à l'époque, fait entre 41 et 44%. Si vous regardez deux élections comparables à un moment bien particulier, il fait entre 10 et 14 points de moins.
Est-ce que cette, vous ne craignez pas la porosité
Et nous n'avions jamais gagné en et nous n'avions jamais gagné en triangulaire dans aucun sondage avant, depuis Léotard. Monsieur Léotard, c'est un moment quand même.
Muselier.
Donc je veux bien que vous mettiez toutes les frayeurs, les craintes.
Non, il n'y a pas de frayeurs. On met
deuxièmement, vous me parlez de Monsieur Mariani.
Il est issu de la droite. Il y a une porosité de l'électorat dans la région qui peut déclencher un vote en sa faveur. Qu'est-ce que vous en dites ?
Qui peut ou qui peut pas ?
Je pose la question.
Qui peut ou qui peut pas, hein ?
C'est à vous de répondre.
Ben, qui peut ou qui peut pas ? Mais je vous réponds, qui peut ou qui peut pas ? Dans qui peut pas ? Avignon, il était candidat aux dernières municipales sur la liste du Front National Avignon. Il n'a pas gagné, à ce que je sache. Il n'y a pas eu de percée à Avignon. D'ailleurs, il n'y a pas eu de percée dans tout le Sud. Parce que dans le Sud, nous avons gagné globalement toutes les villes communistes. Et deux villes socialistes. Et nous avons pris deux villes au Front National. Ça, c'est le dernier municipal. Dans le cadre des régionales aujourd'hui, je constate, avant de dire quand est-ce que je serai candidat et contre qui je serai candidat, M. Mariani n'est pas candidat. Il y a ministre d'En Marche qui est candidate. Et à gauche, c'est toujours pas qui est candidat. Moi, laissez-moi quand même essayer de m'occuper de la réouverture de ma région avant d'essayer de savoir pourquoi faire, contre qui, de quelle manière.
Vous venez d'évoquer Sophie Cluzel, effectivement, secrétaire d'État aux personnes âgées, qui tire la liste pour handicapé. La République En Marche. Qu'est-ce qui vous rapproche le plus sur les questions d'immigration, régalienne, sécurité ? L'approche de Thierry Mariani ou l'approche de Sophie Cluzel ?
Non, mais qui n'est pas malentendu. Moi, je suis le petit. Mon grand-père a donné la croix de Lorraine à la France libre. Mon grand-père a été déporté à Dachau, voilà. Moi, j'ai toujours combattu le Front National, quelles que soient les étiquettes en face de moi. Qui que ce soit. Toujours, toute ma vie. Donc, moi, j'ai une colonne vertébrale, c'est la famille gaulliste. Et la famille gaulliste, notamment dans la reconstruction, elle sait construire avec les meilleurs, quelles que soient leurs étiquettes d'origine, à partir du moment où l'étiquette, vous me la mettez dans la poche. Je ne veux pas savoir s'il y en a un qui est En Marche, s'il y en a un qui est Républicain, s'il y en a un qui est Modem. J'en ai 8 dans ma composante aujourd'hui. Politique, dans ma majorité, il ne m'a jamais manqué une voix. Le Front National qui est contre moi, à la région, a perdu un tiers de ses membres. Donc écoutez, on va essayer de travailler avec des gens sérieux. L'enjeu pour moi, c'est quoi ? Vous vous imaginez un peu qu'on va confier la région dans le cadre de la reprise à ces gens-là ? C'est le Front National. Vous croyez que c'est ça qui va être...
C'est le choix des électeurs.
D'accord, mais quand on y aura la campagne qui commencera, on va expliquer ce qui va se passer. Pendant que l'année dernière, on s'occupait de tout ça, puisqu'on a mis quand même beaucoup de moyens, et on l'a fait avec beaucoup d'humilité, attention, hein, j'ai aucune prétention, parce qu'il y a trop de souffrance, trop de morts, trop de drames, trop de choses difficiles. Enfin, on était à la manœuvre jour et nuit, hein. On n'a jamais vu personne en face, ni à gauche, ni du national d'ailleurs. Madame Cluzel est au ministère avec Monsieur Véran, ils ont le bureau à côté. Je l'ai pas trop vu dans la région, hein. On l'a vu, elle, pendant une fois par an, là. Et maintenant, elle a tous les week-ends. Donc, attendez, vous êtes
gentil. Elle dit que vous n'êtes pas sur le terrain, d'ailleurs.
Bah, écoutez, elle, jusqu'à maintenant, elle votait pas là, elle vient de s'inscrire dans le Var, hein. Et elle est jamais venue pendant toute sa mandature. Mais c'est pas grave.
Et vous, à quel endroit vous allez déclarer votre candidature ?
Ça n'a aucun intérêt. La réalité, tout ça, c'est nos histoires à nous de politique, ça nous plaît, etc. Je ne rentrerai pas là-dedans. Voilà, fais un peu ce qu'elle veut, Madame Cluzel. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'ouvrir mes bars, mes restaurants, mes festivals. Je veux que ma région fonctionne. Et je suis à la manœuvre depuis toujours là-dessus. Et personne ne peut me le contester. Ça, c'est sûr.
Et en bonne discussion avec Emmanuel Macron. On se retrouve dans quelques instants.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Cécile Cornudet, Damien Fleurot, Mickaël Darmon.
Et Renaud Muselier, donc président de la région Sud-PACA, qui se prépare à être candidat pour les prochaines régionales. Cécile Cornudet, une question.
Oui, vous dites que vous n'êtes pas candidat, mais on vous sent quand même très candidat. Effectivement, vous dites que vous voulez un test PCR positif, il y a un jeu de mots, programme compétences république. Bon, ça sent le slogan, mais c'est quoi votre programme en vrai ?
Non, c'est pas. C'est le programme. Vous le verrez le jour où je m'annoncerai candidat. Le PCR, c'était la réponse à la main tendue de Christophe Castaner. Et j'ai dit avec un peu d'humour, parce que ça, on peut avoir un peu d'humour dans la vie quand même. À la main tendue dans cette période où personne se serre la main, où on se fait juste des petits coups de coude, peut-être, ou des gestes derrière nos masques. On a un test PCR. Programme. Quel est votre programme, Monsieur Castaner?
Et puisque quel est votre programme, Monsieur Muselier?
Après, quelles sont vos compétences et confiance? Vous savez qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de la défaite que j'ai eue quand on avait gagné la ville de Marseille, Jean-Claude Gaudin, où j'avais 17 voix d'avance et j'ai fini avec 2 voix de retard. Donc pour diriger une majorité, il faut avoir confiance dans ses partenaires. Quelle peut être notre confiance? Et quelles sont les compétences des gens qui veulent venir sur une liste que je serais susceptible de piloter? Très bien. Et après, il y a la valeur régionale et valeur républicaine, puisque vous me parlez toute la journée du RN ou du Front National. Et donc là-dedans, dans ce test PCR, s'il est positif, mais ce test, il est valable pour tout le monde. Il est valable pour mes amis politiques, il est valable pour la société civile, il est valable pour la totalité des gens qui ont envie de travailler pour la région. Et donc aujourd'hui, par rapport à ma colonne vertébrale qui est structurée, famille gaulliste, qui est héritage, je dirais, Chirac. C'est-à-dire que il y a une vraie, il y a pas
cordon
de porosité, il y a
pas de porosité là-dedans, on peut se retrouver un certain nombre quand même là-dessus.
Et donc mon PCR aujourd'hui peut évoluer en bras ouverts, avec quel est votre programme, parce que je vais voir un peu là-dedans. Quand je sortirai le mien, ceux qui sont susceptibles de venir.
Il y a des
Quels sont ceux qui sont en confiance avec moi? Mais bien entendu, quand je parle, je suis président des régions de France. Je suis en train de traiter la crise pour mes amis qui sont unis derrière moi, avec moi à l'intérieur de RDF. Et Dieu sait si j'ai quand même des présidents de région assez exceptionnels au niveau national, dans le cadre de leur prise de position. Alors, très différent. Mais on est en bloc, parce qu'on aime nos régions, aime nos territoires et on se bat pour nos territoires.
Renaud Muselier, une petite question. Vous avez parlé de bras ouverts, il y a aussi les postures main sur le cœur. Xavier Bertrand, Valérie Pécresse disent que s'ils ne gagnaient pas leur région, ils arrêtent la politique. Et vous?
Non mais eux, ils sont candidats au présidentiel. Je ne suis pas candidat au présidentiel. Mais moi, j'ai déjà arrêté la politique, monsieur Darmon. Vous vous souvenez bien que j'ai arrêté la politique parce qu'on m'a battu, qu'on m'a fait battre. Et que j'ai perdu, que je ne suis pas un alimentaire de la vie politique. J'ai un métier, je suis docteur en médecine, j'ai une activité professionnelle, et cette activité professionnelle, j'y tiens plus que tout. Mais j'ai cette liberté, cette indépendance, cette liberté qui me permet de dire à mon parti, je suis libre et indépendant. J'ai gagné mes galons, j'ai de l'expérience.
Parfait.
Mais je suis fidèle à ma... J'ai jamais trahi personne, monsieur.
Quel regard libre et indépendant sur votre parti, Daniel Floro?
On sent ce matin toute votre ambition. Il y en a d'autres dans votre famille qui ont de l'ambition. On a parlé de Xavier Bertrand, de Valérie Pécresse. Comment est-ce qu'on les départage, tous ces candidats à l'élection présidentielle potentielle dans votre famille politique? Est-ce qu'il faut une primaire?
Moi, je suis contre. J'ai toujours dit, et d'ailleurs, ça a été voté à l'intérieur de notre famille politique, sous l'autorité de Christian Jacob, on ne fera pas de primaire. Voilà. Enfin, pas très...
Pourtant, alors beaucoup après, réclament.
Ce sont les sondages qui départageront les candidats.
Nous avons dans nos statuts des primaires institutionnalisées et on a décidé de voter contre la primaire qui posait trop de difficultés. Bon. À partir de ce moment-là, c'est important de savoir ce qui va se passer plus tard. C'est évident. Enfin, on a un peu de temps quand même. On peut laisser un peu décanter la situation. On voit bien d'ailleurs que ça soit Xavier ou Valérie Pécresse, ont pris un choix politique très fort, qui est de dire si on perd la région, on arrête la vie politique. Parce qu'en même temps, ils sont candidats à la présidence de la République, quand même.
Et Xavier Bertrand, dans les sondages, est mieux placé que Valérie Pécresse, ça le légitime, à vos yeux?
Non, mais déjà, on va voir s'ils gagnent tous les deux.
Bien.
Et puis, au moins, ils sont courageux par rapport à leurs propres électeurs. Moi, je suis candidat potentiellement plus tard, on verra, à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est pas pour être candidat à la présidence de la République. À moins que je vous fasse un scoop aujourd'hui en disant je suis candidat à la présidence de la République. Ben non. Voilà.
On entend.
J'aime ma région, j'y suis. Et je souhaite pouvoir continuer à œuvrer en ce sens. Parallèlement à ça, eux ont une ambition nationale. Ils estiment qu'ils peuvent, au sein de...
C'est un problème d'ailleurs de mener une campagne régionale pour eux, alors qu'on sait qu'ils sont candidats à la présidence de la République.
Ils ont fait ce choix, hein. Moi, vous savez, je respecte toujours le choix des autres.
Les électeurs, ils comprennent ce genre de choses.
Mais peut-être que ça peut peut-être les aider aussi, s'ils ont estimé que c'était ça leur choix. Mmh. Je ne sais pas, moi, je ne suis pas dans cette logique-là. Je pense quand même que c'est un choix quand même qui est un peu dangereux. Quand même.
C'est un risque. On entend Laurent Wauquiez qui prend aussi des risques, qui commence à faire réentendre sa voix sur le plan national. On entend aussi qu'il aurait des ambitions d'être candidat, éventuellement peut-être à l'élection présidentielle. La question de Damien Fleurot, je la reprends. Comment on départage toutes ces ambitions et toutes ces personnes qui veulent prétendre à la candidature?
On verra plus tard. Vous savez, moi, je ne me précipite pas quand même. C'est un peu comme dans les westerns, là, vous savez, ils sont tous dans la rue, là, avec les mains sur les coltes.
Premier qui dégaine, vous attendrez les sondages, c'est bien ça, soyez clair.
Le premier qui dégaine, il est mort, il faut être prudent, attendre, avoir un peu d'expérience, chacun joue sa tactique différente, bon, tout ça va se décanter, voilà. Et puis il y en a d'autres aussi qui sont candidats, qui apparaissent, que ce soit M.
David Juvin, Lisnard, qui est dans votre région. Juvin. Comment vous voyez ce nouvel homme qui monte à côté de vous?
Mais qui se mesure, moi ça ne me pose aucun problème. Ouais, si on a du talent, chez nous on a des talents.
Primaire.
Qu'est-ce qu'il y en a des talents? Oui, mais enfin après on verra aussi, il y aura peut-être le sondage qui permettra de resserrer l'échantillonnage.
Alors Renaud Mouzou, il y a quelqu'un qui peut-être va mettre tout le monde d'accord, c'est Emmanuel Macron, puisque Christian Estrosi, que vous citez régulièrement comme étant votre ami... Maire de Nice a dit régulièrement, et le dit, c'est le meilleur candidat de la droite. Est-ce que vous pensez la même chose?
Je ne pense pas la même chose. Je ne sais pas si c'est le meilleur candidat de la droite. Je n'ai pas vraiment l'impression qu'il soit de droite, M. Macron. Il est le président de la République, en train de gérer une crise majeure. Et moi, en tant que républicain, j'essaye d'aider mon pays à mon niveau, dans mes responsabilités pour le faire. Ce que je peux dire par rapport à ce qu'a dit Christian, c'est que moi, je me laisserai jamais... une nouvelle fois enfermé dans une histoire comme celle des européennes, quoi. Voilà. Finir à 8 dans ma formation politique, voilà, je fais
donc
pas la politique.
C'est pas obligé qu'il y ait un candidat de la droite en 2022.
Je pense qu'il en faut un, mais je m'enfermerai jamais dans ce truc-là. Voilà, c'est d'accord. Pas ma droite.
Mais est-ce qu'Emmanuel Macron peut porter votre politique?
Je me retrouve pas dans ce discours-là. Je suis un pro-européen. Je défends un certain nombre de choses très claires.
Parce qu'on vous entendre, vous êtes au fond compatible avec Emmanuel Macron à travers tout ce que vous dites, le dépassement des clivages, des compétences, le gaullisme, le rassemblement.
Je suis incompatible avec la décentralisation. Donc, vous savez, quand il y a des choses qui se passent bien et des choses qui se passent mal. Voilà, dedans, c'est pas tout blanc ou tout noir. Et donc, j'ai pas d'affection particulière pour Monsieur Macron, mais le président de la République a géré une situation très complexe. Il s'appuie sur un parti politique qui, à mon avis, est inexistant. Et La République En Marche est un boulet pour lui. Voilà. Et je pense que nous, on a une famille politique consistante, avec un grand nombre de personnalités éminemment performantes, avec des élus locaux
qui montrent au quotidien,
mais qui a du mal, malgré cette structure idéologique, politique, institutionnelle, qui a du mal à désigner son champion. Très bien. Et lui, c'est exactement l'inverse. Et là, il a une famille politique qui, je vais pas dire du mal des autres.
Donc ça sert à rien. Ça pourrait faire un beau mariage, en fait. Une structure partisane et un homme seul à sa réélection.
Le patron de LR à l'Assemblée nationale, Monsieur Abad, soit favorable à ça, ni Monsieur Jacob. Hein. Donc je regarde les états des lieux et des forces, et je ne peux m'exprimer quand même sans procès d'intention en permanence quand j'essaye de faire un diagnostic qui soit un diagnostic raisonnable. Or, ce qui me gêne le plus aujourd'hui, c'est tous les excès dans lesquels on tombe. C'est-à-dire que on doit être obligatoirement, c'est les bons et les méchants, c'est le blanc ou c'est le noir, c'est les Européens contre les autres. Je n'accepte pas ce qui se passe au niveau de la justice. On a commencé comme ça. Je ne l'accepte pas. Je n'accepte pas ce qui se passe au niveau de la police. J'essaye de faire en sorte que dans mes lycées, j'ai 100% de sécurité. Dans mes trains, dans mes gares, j'ai débloqué 10 millions d'euros. J'attends une convention de M. Darmanin, qui est issu de ma famille politique, que je connais très bien, pour aider les forces de l'ordre et les forces en présence.
Le candidat qui parle à l'électorat à droite dans le sud.
Non, mais je parle. Mais vous me demandez par rapport au national. Je vous réponds par rapport au national.
Éric Ciotti, dans votre région, dit pas question de pactiser avec Emmanuel Macron. Christian Jacob, patron de votre parti, vous l'avez dit, pas question de pactiser avec Emmanuel Macron. Or, on voit des élus, des grands élus. Christian Estrosi, Hubert Falco à Toulon, vous-même, on sent que vous pourriez le faire.
Bon,
comment vous allez régler ça?
Pour l'instant, on verra comment on règle ça. C'est vraiment le bien. Mais moi, pour l'instant, mon problème à moi, c'est de faire en sorte de... Je suis un chef d'équipe. Voilà. Et mon équipe, il faut qu'elle soit la plus forte, la plus grosse, la plus large possible pour gagner les élections régionales et prendre la reprise. Et là-dedans, je sais qu'il n'y aura pas la courbe à pareil. Voilà. Donc aujourd'hui, procédons par étapes. Hein, on ne va pas sauter 50 haies à la fois. J'en ai une. Pas d'accord d'appareil. C'est bien clair, je l'ai répété, ça. Ça va faire plaisir à M. Chouki, ça va faire plaisir à M. Estrosi, ça va faire plaisir à M. Jacob. Je suis pas tout à fait sûr que ça fasse plaisir à mes adversaires, que ça soit Mariani ou Cluzel. La réalité, sauf que Mariani devient de fait un ennemi, alors que Cluzel devient un adversaire légitime. Et donc, on se retrouve dans une situation où je ne veux pas d'accord d'appareil. Je suis un chef d'équipe
je suis un coach, je veux, le truc fonctionne avec les meilleurs.
Et on parlait... On était sur le national. Édouard Philippe semble beaucoup plaire à des électeurs LR. Est-ce que vous le sentez, ça, sur le terrain?
C'est exact. Et ça prouve bien que les appareils ne fonctionnent pas. Puisque Édouard Philippe, c'est un ami, lui, il est passé chez M. Macron, il était Premier ministre. Mes amis de LR lui ont tapé dessus tout le temps. Et aujourd'hui, celui qui est ancien Premier ministre, il est aimé de l'électorat LR. C'est pour ça qu'il ne faut pas d'abus, il ne faut pas d'excès. On est dans une période de conflit.
Mais il peut jouer un rôle clé pour la présidentielle de 2022, Édouard Philippe?
Il peut aider Emmanuel Macron à être réélu?
Je ne sais pas, il est sorti. Là, M. Philippe est un homme particulièrement intelligent et malin et assez fin tacticien. J'ai apprécié sa sortie médiatique, son livre. Donc il est allé voir un peu ce qui se passait, il voit un peu comment ça réagit.
Merci beaucoup. C'était donc le grand rendez-vous de Renaud Muselier. Merci à Cécile Cornudet. Merci à Damien Fleuroy qui en souhaite de belles nouvelles aventures à l'avenir. À très bientôt, à dimanche. Europe 1.